Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Ce vendredi, nous évoquons un sujet qui concerne tout le monde et qui nous fait tous réagir différemment. Les surprises. Faut-il les aimer? Faut-il même cultiver l'art d'être surpris? Elles sont parfois pénibles, les surprises, et sans doute est-ce pour cela que nous les anticipons jusqu'à les neutraliser. Savoir qu'on risque de ne pas aimer le cadeau qui s'annonce, c'est bien sûr éviter la surprise décevante. En même temps, trop se préparer, c'est aussi peiner de plus en plus à savourer la bonne surprise. Toute la question réside peut-être dans l'équilibre à installer entre attente et réception du nouveau. Et là, la philosophie peut entrer en scène, elle peut distinguer la notion de surprise d'autres notions, réfléchir à l'importance du sens de la surprise ou au contraire, à sa futilité. Se demander même si par hasard, la disponibilité à la surprise ne serait pas un art à cultiver, à entretenir. Bonjour Nathalie Deprat.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, excellente connaisseuse du courant de la phénoménologie et notamment des œuvres d'Edmund Husserl et de Martin Heidegger. Vous venez de faire paraître un livre qui explore en profondeur la notion de surprise et qui s'intitule justement « La surprise » avec comme sous-titre « Crise dans la pensée ». Vous nous direz pourquoi. Et bonjour Laurent de Sutter.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Bruxelles, dans une université dont j'ai peur d'écorcher le nom, donc je vous laisse le prononcer.
La vraie Université de Bruxelles.
D'accord. Vous venez de publier au PUF un livre intitulé « Décevoir est un plaisir », livre qui, à sa façon, évoque la question de la surprise, même si la notion de déception a aussi ses enjeux propres dont nous parlerons. Pour commencer notre discussion, voici un exemple de grosse déception qui produit une réaction bruyante, des insultes et même un déni. Écoutez.
Je vais l'épiler, va. J'ai fait 45-8 hier à l'entraînement.
Au départ, chauffeur 34, docteur Jérôme Tarrère,
3, 2, 1, go.
Je me suis senti à l'aise, là.
Oh,
je veux bien.
Écoutez.
Docteur Jérôme Tarrère, 67, 22.
Quoi?
Mais c'est vachement bien, Jérôme, ça te fait dans les 40e.
Ah ouais.
Combien il a dit, là?
67, 22, il a dit.
Oh, c'est pas possible, il y a une erreur.
Pourquoi?
Mais c'est 20 secondes de plus qu'il y a sur le même parcours, c'est bien le même parcours, là, non?
Mais t'énerve pas, Jérôme. Je crois que t'as accroché une porte.
J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône, celle-là?
Ah bon? Je suis une conne, très bien.
C'est invraisemblable, ça a 20 secondes de plus qu'hier, mais c'est presque le double. J'ai bourré comme un âne en plus.
Ah ouais, mais peut-être que il y a eu une erreur de chronométrage.
C'est ça, il y a une erreur de chronométrage.
Peut-être ça.
Allez, venez avec moi, on va voir les juges.
Non.
Allez, venez, c'est hier.
Jérôme,
c'est hier.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Et vous aurez peut-être reconnu Les Bronzés font du ski, film de Patrice Lecomte de 1979 avec Christian Clavier qu'on entend clairement là, Marianne Chazelle qui se fait traiter de conne, je crois que c'est bien elle, Thierry Lhermitte. Alors, c'est une déception, il fait beaucoup plus un temps beaucoup plus pourri que ce qu'il imaginait dans la course, dans ce slalom la veille. Laurent de Sutter, il insulte tout le monde, le personnage de Clavier. La question qui se pose quand même, d'accord, d'accord, on peut essayer de réagir plus gentiment à une déception. Mais enfin, peut-on éviter la déception? Il faudrait arrêter de vivre et de se donner des challenges dans tous les genres si on voulait éviter les déceptions.
Oui, sans doute. Mais davantage que ça, si vous voulez, lorsqu'on parlait de déception, c'est au fond parler de quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine d'ordinaire. Quand on parle de déception, on imagine effectivement une espèce d'émotion qui nous traverse comme elle traverse Christian Clavier parce qu'il a un chrono tout pourri. Une émotion qui serait une émotion personnelle, quelque chose qui nous concernerait notre vie morale. Alors qu'en réalité, derrière la déception, c'est véritablement une structure du temps. Qui se trouve impliqué, qui se trouve déployé, et une structure du temps qui, au fond, comme dans l'exemple des bronzés, est une structure qui repose sur l'annulation de tout ce qui est, de tout ce que l'on rencontre, du monde dans lequel on est, au profit de quelque chose d'autre, d'une attente qui aurait eu vocation à se réaliser, alors même, évidemment, que cette réalisation était de l'ordre de la condition, de la spéculation, d'une possibilité, mais une possibilité qui, subitement, a été considérée comme ayant vocation à remplacer, hein, effectivement, tout ce qui est. Donc, il y a quelque chose dans la déception qui est de l'ordre du refus, du déni, de la dénégation et de l'incapacité, en effet, à rencontrer.
Mais je dirais que la course, qu'il s'agit d'une course de ski, c'est un mauvais exemple, je crois, pour vous. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on comprend quelle est votre démarche. Parce que par définition, la course, c'est ce qui génère de l'attente. On attend un bon score, un bon chrono, comme vous venez de le dire. Et donc, on est surpris positivement ou négativement. Et quand on veut, comme vous, une certaine éthique décalée de la surprise et de la déception, c'est un mauvais exemple. Vous êtes forcément gêné aux entournures.
C'est un mauvais exemple parce que le sport est un mauvais exemple. Le sport, pour moi, est une catastrophe.
Oh, ça va.
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, dans la conception que l'on en a, repose toujours sur la possibilité de gagner. Gagner du temps, gagner un match, gagner, etc. C'est-à-dire, au fond, de remporter sur la réalité, sur autrui, quelque chose qui est de l'ordre de la victoire. Moi, j'ai l'impression que la vie, c'est pas vraiment quelque chose qui relève de la victoire.
Non, mais personne n'a dit que le sport, c'était la vie. Mais c'est une chose de la vie, peut-être. Mais
ça
ne vous intéresse pas du tout.
Mais c'est vrai que c'est une chose qui possède, dans la civilisation qui est la nôtre aujourd'hui, elle est placée à un endroit qui est un endroit dont j'avoue que je ne le comprends pas très très bien. D'abord parce que un sport, ça possède des règles et que j'ai des problèmes avec les règles et qu'une partie justement des déceptions que l'on peut avoir sont précisément basées sur le fait que les attentes que nous avons sont des attentes qui sont paramétrées, qui sont réglées, qui sont normées, qui sont d'une certaine manière légiférées. Et en effet, dans l'attente, il y a une idée comme ça, un peu étrange, que le devoir, ce qui devrait se produire, est plus important que ce qui se produit. La norme est plus importante que l'être, et le sport, de ce point de vue-là, l'incarne relativement bien. Un jour, peut-être, je découvrirai un sport où ce n'est pas le cas.
Non, mais votre radicalité fait du bien. Au moins, vous tenez là une ligne. J'ai presque envie de dire, on n'est pas surpris. C'est-à-dire que quand vous posez une idée, vous allez jusqu'au bout, vous la défendez. Et alors, vous, je pense que c'est mon intuition, Nathalie Depras, c'est que c'est tout de suite plus complexe. C'est-à-dire, faut-il lutter contre ces horizons d'attente qui produisent des surprises, voire des déceptions, ce qui est en gros ce que vient de nous dire Laurent Suter dans sa critique radical du sport, ou bien faut-il y réfléchir, voire cultiver le sens de la surprise?
Vous avez bien résumé une grande idée qui est dans ce livre, effectivement. Et je voudrais rebondir en fait aux deux points que vous avez mis en avant, Laurent de Suter. Parce qu'en fait, c'est effectivement ça. Je me retrouve quand même beaucoup dans ce que vous dites, dans la mesure où, d'une part, je dirais que la déception, c'est vraiment pas une émotion. En tout cas, pas au sens le plus intéressant du terme, dans la mesure où moi, j'aurais tendance à distinguer entre déception au sens de l'émotion et ce que j'appelle déceptivité, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment une structure de connaissance, quelque chose qui renvoie à « je suis frappé par un événement qui va entraîner une déception, mais cette déception, elle correspond à une non-coïncidence entre ce que j'attendais et ce qui arrive ». Donc en fait, c'est une structure cognitive. Enfin, c'est pas du tout une émotion, en fin de compte. Donc je me retrouve vraiment dans ce que vous venez d'élaborer. Et l'autre point, effectivement, par contre, je m'y retrouve en partie seulement, parce qu'en fait, je pense que même dans le sport, moi je suis pas très sportive, mais je serais pas aussi radicale que vous, parce que je pense que même dans le sport, il y a tout un art de la l'anticipation et de la préparation. Et donc on peut dégager une éthique du sport si on s'attache pas aux résultats, Donc si on ne cherche pas uniquement le gain, mais si on joue sur la manière dont on va voilà, justement se préparer, être capable d'anticiper sans forcément savoir ce qui va se passer. Donc finalement, pour moi, le sport s'aligne très bien sur ce que j'appelle la dynamique de la surprise, qui justement repose sur un art d'anticipation, d'attente, de cultivation, de culture. Enfin.
Et vous êtes en train de resservir le fameux « l'essentiel, c'est de participer », formule à laquelle aucun sportif ne croit, comme vous savez.
Oui, alors peut-être pas les... Oui, c'est possible. Après, moi, j'ai eu peut-être une représentation du sport qui n'est pas celle des sportifs effectifs. Enfin, peut-être c'est ma manière à moi de me réapproprier philosophiquement le sport pour en faire quelque chose d'intéressant.
Voilà, comme un art de vivre. Et certainement pas sur son mode compétitif. Eh bien, écoutez, ça nous va droit au cœur, à 2 mois des Jeux Olympiques. Ça, vous ne m'attendez pas à celle-là. Je vous propose un tout autre exemple, avec une surprise décevante, alors que normalement, pour plein de gens, c'est une surprise magnifique. Il s'agit d'un extrait du film Énorme, réalisé par Sophie Le Tourneur en 2019. Écoutez.
Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Madame Girard.
C'est vrai, ça allait...
Comment ça va?
Bof. Je me sens un peu ballonnée tout le temps et puis j'ai très mal au sein. Je comprends pas ce que j'ai.
Bon, vous vous souvenez de la date des dernières règles?
Ah oui, c'est vrai, vous êtes chez Razette, oui.
Ça va, vous la supportez bien?
Oui.
Oui, ça va.
Oui? Vous n'avez pas de saignement? N'oubliez pas de la prendre?
Non.
Non?
Quand on a un cancer, c'est souvent ça un des premiers signes. C'est une grosse fatigue.
Bah, vous êtes très anxieuse, dites-moi. Il n'y a pas de raison.
Bah, parce que la fatigue, c'est souvent un des premiers signes.
Oui, d'accord. Enfin, c'est un signe très fréquent.
Bien sûr.
Mais le cancer aussi, c'est très fréquent.
Bon, allez. Vous êtes vraiment angoissée en ce moment, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des échéances bientôt?
Oui, il y a des échéances très, très bientôt.
C'est un grand conseil.
Bon, vous avez une idée de l'âge de la ménopause de votre mère?
En l'occurrence...
C'est pas quelque chose que... Allez, on va passer à l'examen et puis on va vérifier tout ça. Allez. D'accord? Ah oui, il y a une grosseur, là.
Une tumeur?
Ben, ça arrive jusqu'au nombril. On va regarder ce qui se passe, là, tout de suite, oui. Je vais vous mettre un peu de gel sur le ventre. C'est un peu froid, hein, d'accord? Bon. Ah, je comprends. Ben, c'est un bébé.
Un bébé cancer?
Mais non, c'est un bébé normal.
Bébé normal?
Bon, vous voyez la tête, là? Regardez.
Vous êtes sûr que c'est mon ventre que vous filmez, là?
Regardez, il bouge.
C'est pas des images d'archives?
Ça, c'est votre ventre, hein. Les images qui sont là, c'est les images du ventre. Quand même mieux ça qu'un cancer, non? Je vais regarder s'il y en a qu'un.
Il pourrait y en avoir plusieurs?
La tête mesure...
C'est sa tête.
5 cm. C'est une grossesse d'à peu près 4 mois, hein. Je vous fais écouter son cœur?
Oui, si oui.
Vous voulez bien, Madame Girard?
Tu veux bien, chérie? On écoute le cœur pour voir comment ça...
Vous entendez? Vous voulez connaître le sexe? Vous voulez qu'on regarde?
Non. Surprise, hein, je pense. Chérie, on veut pas savoir le sexe, hein. Elle veut rien entendre.
Ça nous fait rigoler, cet extrait. Là, je dis aux auditeurs... On s'est marrés tous les trois, même moi qui pensais au départ que c'était pas drôle du tout cette histoire. Mais pourquoi? Alors Laurent de Sutter, vous qui avez vu ce film, qu'est-ce qui est comique là?
Oh là là, qu'est-ce qui est comique? Bon, évidemment, il y a toute une série de dimensions. D'abord, évidemment, il y a la surprise de la principale concernée, qui en réalité s'est fait entourlouper par son compagnon manager, puisque
il a trafiqué la pilule.
Voilà, parce que c'est lui qui lui donne sa pilule. Elle est chanteuse d'opéra et elle ne veut
elle
rien
savoir. Elle n'est
pas pianiste, pardon. Ouais. Elle ne veut rien savoir de la vie quotidienne. Et donc son mari, manager, compagnon, voilà, qui à un moment donné se dit bon, peut-être que j'aimerais bien avoir des enfants, mais elle veut absolument pas parce que sinon sa carrière risque de s'interrompre. Et boum, il lui trafique sa pilule et
c'est la seule dame au monde qui se fait donner sa pilule par quelqu'un d'autre.
Elle se fait littéralement, c'est à la limite de la becquée. Voilà, et évidemment ce qui s'ensuit ensuite. en termes de trahison, en termes de, mais en termes de trahison, qui est effectivement une trahison qui est de l'ordre, qui est de l'ordre de la comédie. Donc là, le rire ici, il naît évidemment de, d'une outrance, d'une espèce d'impossibilité.
Son côté pervers à lui, quoi.
Tiens, le mec est complètement tendu.
Oui. Bon, alors venons-en à notre sujet. Ouais. La surprise. Comment voulez-vous, vous qui n'aimez pas les horizons d'attente, qui produisent des surprises et notamment des déceptions, comment voulez-vous qu'une dame qui a un ventre qui grossit alors qu'elle est censée prendre une pilule contraceptive évite de se raconter des hypothèses? Forcément, elle se dit « j'ai une tumeur, enfin j'ai un problème ». Donc je veux dire, voilà un exemple, pour s'il était réaliste,
oui.
qui franchement... et réfute votre ouvrage. Voilà, je vais jusque-là.
Vous allez jusque-là?
Oui.
Eh bien, écoutez, je vais me défendre. D'abord parce que, évidemment, le scénario, comme vous le dites, tient de l'expérience de pensée. Mmh. Et c'est sans doute aussi pour ça que le film est si formidable. Ça ne se passe jamais comme ça. Mais aussi parce qu'en réalité, la question de l'attente dans cette relation que cette femme possède avec son compagnon est une relation qui, elle-même, s'est déjà déplacée ailleurs que dans un espace qui serait un espace où la rencontre, si vous voulez, qu'ils ont eue, rencontre amoureuse, pourrait continuer à porter les conséquences qui sont les siennes. Moi, je fais toujours une espèce de différence un peu pragmatiste, assez jamesienne finalement, entre ce qui relève...
James, c'est le sens de William James.
De William James, oui, au sens de ce que l'on aurait tendance à regarder par derrière son épaule, c'est-à-dire ce qui vient, ce qui nous détermine, ce qui est de l'ordre du passé, et puis ce qui est de l'ordre des conséquences, de l'ordre de ce que l'on peut fabriquer. Donc entre le paramétrage d'une rencontre, quelles sont les attentes que l'on a, est-ce qu'on est passé par une appli de rencontre, on a dû remplir des petites cases, etc. Et puis ce qui se passe quand effectivement on rencontre quelqu'un et que l'on fait vivre cette rencontre, c'est là que se situe la différence. Et ici, dans cette relation, c'est une relation qui ne va pas, qui ne peut pas aller, parce que précisément, les conditions de la rencontre ont été complètement pulvérisées par le fait qu'elle a décidé d'intégralement remettre sa vie entre les mains de son manager, de telle sorte que, quelque part, elle s'est auto-dépossédée de sa vie et auto-dépossédée de la rencontre et de la relation avec cette personne. De telle sorte qu'à ce moment-là, attente, pas attente, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y a pas eu... il n'y a plus, à ce moment-là, de fabrication en commun de quelque chose qui est de l'ordre de l'avec, un avec qui s'accompagne toujours de la surprise de qu'est-ce que c'est qu'évoluer avec quelqu'un. Ici, au contraire, elle essaie de se protéger au maximum de tout ce qui peut se produire dans son existence pour être certaine qu'il n'y ait qu'une seule chose qui fonctionne, ses concerts, son activité de pianiste, son niveau de nouvelle Martha Argerich.
Oh, bah c'est pas plus mal alors qu'elle se fasse un peu... bousculé
c'est un peu
par la
film,
vie, ouais. Même si c'est à cause d'un grand pervers. La surprise, si on en a une lecture moins négative que Laurent de Sutter, qui a l'air de dire qu'il faut casser la structure même qui l'a produit, c'est-à-dire l'attente, est-il possible, Nathalie Deprat, de la supprimer de nos vies? Comment ne pas attendre des choses et donc forcément... être surpris quand elles arrivent aussi bien qu'on les imaginait, ou être déçu. Enfin, il faudrait supprimer la subjectivité, même pour qu'il n'y ait plus de surprises et de déceptions.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faudrait même supprimer les attentes, en réalité. De mon point de vue, en fait, si on voulait qu'il n'y ait plus de surprises, il faudrait aussi supprimer l'attente, parce que l'attente, c'est forcément ouvert. Et il faudrait remplacer l'attente par quelque chose qui serait effectivement à 100% programmé. Et donc, à partir de là, on aboutirait à la structure logique qui prédétermine tout. Comme dit Ludwig Wittgenstein, en logique, il n'y a pas de surprise parce que tout est déjà prédéterminé. Donc, à ce moment-là, il faudrait carrément supprimer l'attente, sachant que l'attente est forcément ouverte. Et donc, elle ménage toujours la possibilité d'un décalage entre ce qui est représenté ou même corporellement attendu, parce que ça peut être une attente implicite. Et puis, ce qui va se produire, le différentiel entre les deux. Donc, en réalité, je pense que c'est un peu compliqué de supprimer les attentes.
Oui, mais en même temps, il y a une chose, pour le coup, surprenante en philosophie, c'est que ce sont les philosophes qui sont le plus pour neutraliser les attentes, qui disent le mieux la disponibilité à la vraie surprise. C'est justement quand on n'attend plus rien... qu'on est disponible à la vraie surprise. Là, il y a un paradoxe philosophique.
Il y a un paradoxe, parce qu'il y a attente et attente.
Expliquez-moi.
Parce qu'il y a l'attente ouverte, et ça, c'est la disponibilité. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la disponibilité. C'est-à-dire le fait d'accueillir, de ne pas savoir ce qui va se produire, mais d'être, de créer les conditions de ce qui va se produire. Donc on ne sait pas comment ça va se produire, on ne sait pas ce qui va se produire, mais on sait que quelque chose va arriver.
Est-ce qu'on peut dire que votre livre, Nathalie Deprat, essaye de substituer à la structure psychique de l'attente autre chose qui est plutôt la disponibilité à, et du coup à nous rendre plus prêts à la véritable surprise, plutôt que nos petites surprises, en général décevantes, liées à nos attentes trop bien structurées.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il y a attente et attente, parce que quand on s'attend à quelque chose, on a une attente fermée.
Oui.
On s'attend à une réalité précise donnée. Enfin, alors que quand on est disponible, ce qui est pour moi l'attente ouverte ou panoramique, enfin, l'accueil, d'une certaine manière, c'est la structure même de l'attente qui est présente pour moi, mais je n'ai pas d'objet déterminé en vue. Ça se cultive, oui, en fait.
Ça se cultive, pour voilà. Le coup. Donc, ouais, c'est un art. Mm. Est-ce que cette démarche, au fond, ne ressemble pas à la vôtre, Laurent de Sutter?
Ah mais si, moi je me reconnais tout à fait dans les mots de Nathalie Deprat. Je rajouterais juste une chose, c'est que justement dans l'attente paramétrée, l'attente qui justement se refuse à la disponibilité ou résiste à la disponibilité, à nouveau il y a plus qu'un comportement subjectif, il y a plus qu'une structure mentale, c'est une véritable structure politique. Et une structure politique qui est une histoire qui s'inscrit dans... on pourrait en faire la généalogie, disons, qui passerait par Platon, qui passerait par le christianisme.
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'attente est une structure politique?
Une structure politique.
Je suis pas sûr de bien comprendre ce que
vous
voulez dire.
Au sens où la manière dont se développe le vocabulaire de l'attente, le vocabulaire de l'espoir, le vocabulaire de l'espérance, en tout cas dans la culture occidentale, se développe sur un fond sémantique, un fond de vocabulaire, qui est un fond qui, lorsqu'il commence à se développer, hein, dans les lois de Platon, par exemple, ou au moment où Platon décrit l'Elpis, l'espoir, effectivement, comme la nécessaire étape d'une religion civique qui permette à la cité de fonctionner. Une cité, c'est des gens qui attendent ensemble la même chose. Et la reprise ensuite de cette théorie par Paul de Tarse pour la formulation des trois grandes vertus théologales, hein, foi, charité et espérance, qui va ensuite gouverner toute la structure effective, disons, de l'Église chrétienne, il y a là derrière une charge, qui est une charge qui n'est pas simplement celle de « c'est ma petite émotion ». Il y a un vocabulaire, un codage, un langage, une encyclopédie, pour parler comme les linguistes, qui accompagne l'espoir, et qui accompagne l'espoir dans sa force de police.
Et ça, c'est détestable pour vous ?
Et ça, pour moi, c'est au moins quelque chose qu'il faut, qu'il faut se remettre en mémoire, disons, qu'il faut essayer de refaire émerger, comme de manière générale, on a besoin de refaire émerger.
Attendez, il faut refaire émerger l'espoir ou
il faut refaire émerger ses significations oubliées, pour pouvoir ensuite décider de ce que l'on veut en faire. Si les attentes, les religions civiques de l'attente, de tout le monde qui regarde dans une même direction, c'est très bien. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Simplement, il faut, me semble-t-il, se souvenir que quand on parle d'espoir, on ne parle pas que de nous.
Bon, ça me laisse un peu sans voix. Je ne suis pas sûre de comprendre.
Moi, je rebondirais bien.
Mais justement, j'allais vous demander de l'aide. Nathalie Deprat.
Oui, je trouve que c'est très intéressant que vous fassiez intervenir la dimension politique. En fait, c'est même la dimension théologico-politique que vous faites intervenir là, plus précisément. Parce qu'en réalité, ce que vous mettez en évidence, c'est une dynamique qui est fondée sur une sorte de désir. Parce que l'espoir, c'est aussi la crainte, et donc c'est fondé sur quelque chose qui est un désir, c'est quelque chose de très mécanique, en fin de compte, et c'est fermé, parce que vous dites, on regarde tous dans la même direction, donc là, on a quelque chose de quand même de très déterminé, et de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec vous, je pense que moi, j'aurais tendance à dire que c'est une forme de religiosité, en fait, extrêmement faible, enfin, d'une certaine façon. Mais on pourrait distinguer de cela, de la même manière, hein, attente et attente, c'est-à-dire on pourrait distinguer de cela, disons, une dynamique qui serait beaucoup plus, alors je vais utiliser un gros mot, hein, qui serait plus eschatologique.
C'est-à-dire qu'il vous serait... voulez pas qu'on emploie un autre mot, moi, religieux, utopique, ça vous plairait?
Utopique. D'un point de vue plus politique, oui. On dirait utopique. Donc quelque chose qui est absolument indéterminé, parce qu'en réalité, on sait que quelque chose va arriver, mais on ne sait pas quand, ni comment, ni de quelle façon, etc. Et là, ça correspond à une forme de... Alors, on peut parler d'espoir, d'espérance, mais moi, je distinguerais espoir et espérance. C'est-à-dire, je dirais l'espoir, c'est vraiment du côté, effectivement, de quelque chose de très déterminé, alors que l'espérance, c'est quelque chose de complètement ouvert, et on ne sait pas ce qui va se produire. Et donc, je distinguerais, d'un point de vue même théologique, je distinguerais entre une religiosité faible, liée à l'espoir, et une religiosité beaucoup plus forte et beaucoup plus ouverte liée à l'espérance.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
De l'art d'être surpris, c'est notre sujet ce matin. Je suis en compagnie de Nathalie Depraz qui vient de faire paraître au Seuil un livre très intéressant intitulé « La surprise, crise dans la pensée » et en compagnie aussi de Laurent de Sutter qui au PUF a fait paraître un livre qui s'appelle « Décevoir est un plaisir ». Alors, justement, j'ai des questions sur ce titre. En réalité, vous fondez sur une histoire assez marrante, hein, qui est celle d'un élève, disciple de Gilles Deleuze, qui s'appelle, je crois, Michel Cressol, j'espère bien prononcer, qui a fait un livre critique sur Deleuze et qui, un peu pervers le monsieur aussi, dans son genre, demande à Deleuze de préfacer ce livre critique de la philosophie de Deleuze. Et Deleuze ne se défile pas, il fait la préface en écrivant à l'intérieur de la préface que la déception est une grande chose et est un plaisir. Mais alors je voudrais tout de suite qu'on précise la chose. Ce qui est un plaisir, c'est de produire la déception. Ce n'est pas de la subir.
Ce qui est un plaisir, dans le cas en tout cas de Deleuze, oui, c'est celui de parvenir à décadrer, décaler des attentes quand les attentes vous sont imposées. Les attentes, elles vous sont toujours imposées. Lorsque c'est quelqu'un qui attend quelque chose de vous, que ce soit au nom d'une responsabilité professionnelle, hein, je sais pas, un professeur, votre supérieur hiérarchique, etc., ou bien que ce soit dans la vie, l'attente, elle vient toujours quelque part d'un dehors. Le dehors, même, il peut être nous-mêmes aussi. On peut devenir notre propre dehors quand on se fabrique, disons, un personnage qui viendrait nous imposer à nous des attentes qu'il s'agirait de suivre. Et donc, oui, chez Deleuze, il y avait cette volonté de dire « Ok, tu t'attends à ça, Coco, de notre part. On vient de publier l'Anti-Oedipe avec mon copain Félix Guattari. Tu trouves que c'est pas terrible et tu te dis qu'en plus, la suite sera encore moins bonne. Tu t'attends à ça. T'es pas le seul à t'attendre à des choses. Il y en a d'autres qui disent c'est pas possible, vous pouvez pas faire mieux, vous pouvez pas faire ceci. Eh ben, ces gens-là, on va les décevoir et ce sera très, très, très bien.
Mais si on précise encore, j'ai l'impression que Deleuze dit à ce monsieur, bien sûr, tu penses que tu m'as déçu puisque tu n'aimes pas mon livre. Tu me déçois, tu trouves que c'est un grand événement. Eh bien, moi, je vais te décevoir encore plus parce que non seulement je ne suis pas vexé, non seulement je ne renonce pas à faire une préface, mais je théorise même le fait de te décevoir par une préface. Donc, au fond, Deleuze... En fait, je me demande si c'est pas juste une histoire d'orgueil, ce truc. Voilà, c'est ça. Je suis pas sûre qu'il y a un enjeu philosophique au-delà d'un combat de coq.
Eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant dans ces petites phrases perdues au milieu des textes qui ont l'air insignifiantes ou qui ont l'air déterminées par des contextes que l'on pourrait expliquer facilement, c'est que ce sont des phrases qui, très souvent, si vous voulez, détiennent quelque chose de plus secret qu'une thèse explicite. Pour donner un exemple massif, on pensait à la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, la vérité de la critique de la raison pure, c'est évidemment pas la théorie du temps, c'est évidemment pas la théorie de la connaissance, c'est tous les petits mots qui, partout, établissent que le paysage général de la pensée de Kant est celui du tribunal. C'est la manière dont les juges, les enquêteurs, les dossiers, les tribunaux voient. C'est la même chose pour Deleuze ou pour d'autres auteurs. C'est très intéressant de faire ce travail, de se dire, je vais prendre cette phrase très au sérieux. Je pourrais l'écraser sous une interprétation...
La phrase « décevoir est un plaisir ».«
Décevoir est un plaisir ». Je pourrais l'écraser sous une interprétation en disant, oui, effectivement, c'est pas très important, ou bien c'est... Qu'est-ce qui se passe si on prend cette phrase au sérieux? Quelles conséquences on peut tirer? Quel effet on peut tirer d'une phrase comme celle-là si on la prend au sérieux jusqu'au bout, d'une certaine manière? Et à mon avis, c'est aussi une manière de rendre hommage à Deleuze qui, lui, a beaucoup fait ça. C'est-à-dire prendre les choses jusqu'au bout et les prendre de manière littérale. C'est très important pour Deleuze, la littéralité. Le fait qu'on ne métaphorise pas, les mots sont là, on les lit, on les regarde, on en fait quelque chose. Effectivement, c'est ce que j'essaie de fabriquer dans ce petit essai qui prend au sérieux cette phrase, comme elle prend au sérieux toutes celles qui relèvent du langage, ce langage dont Roland Barthes, et c'est une thèse qui moi m'est très chère et qui gouverne pas mal de mon travail, dont Roland Barthes avait dit un jour que vous savez que toute langue est fasciste. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement faire réémerger à partir d'expressions, de phrases, ce fascisme de la langue, c'est-à-dire effectivement cette politique qui voudrait nous ranger, nous aligner dans une certaine direction.
Nathalie Depraz, ça suscite quelle réaction en vous, cette affaire du disciple de Deleuze qui le déçoit et Deleuze le déçoit en retour?
Ah oui, la déception de la déception, c'est particulièrement intéressant. C'est vrai que mais le titre, votre titre lui-même, est justement joue sur ce paradoxe, en fait, parce que moi, ça m'a justement le titre m'a surprise.
Décevoir est un plaisir.
Ma surprise, parce que justement, je me suis dit, mais au fond, voilà, on déçoit la déception. Donc du coup, est-ce que c'est dialectique? Est-ce que du coup, la déception de la déception nous fait regagner du positif? Peut-être c'est ça l'enjeu.
Oui, c'est surtout que tous ces gens essayent de neutraliser la surprise. Enfin, il ne s'aggrave que de cela.
En fait,
tout le monde surprend tout le monde là.
Elle est aggravée. Elle est
oui.
C'est une moi j'appelle ça des cascades de surprises parce qu'en fait ça s'enchaîne. En fait, ça, on n'arrête pas de rebondir sur de nouvelles surprises. Mm.
Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça l'idée. Je pense que c'est de ça que, à nouveau, en tant que pragmatiste un peu convaincu, quelqu'un d'attentif à l'art de produire des conséquences, c'est ce que Deleuze évidemment avait à l'esprit, c'est un grand penseur de l'événement en tant que toujours surprenant. Mm-hmm. Mais pour lui restituer la totalité de sa dimension de surprise, il faut le désaxer d'un certain nombre de paramètres qui sont précisément les paramètres d'attente.
Nathalie Depraz, ce qui est formidable dans votre livre, La Surprise, c'est que vous essayez d'aboutir presque à l'ingrédient pur de la surprise en la distinguant d'autres choses. Alors vous y allez très fort, hein, parce que à la fin du livre, ce n'est pas l'inattendu, ce n'est pas l'étonnement, ce n'est pas l'admiration. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors pour introduire ce travail conceptuel de distinction que vous faites, je vous propose d'entendre un texte que vous citez, qui vous intéresse, qui est un texte d'Adam Smith de 1795. Il est lu ici par Riyad Kera, et le texte d'origine de Smith s'appelle Wonder, Surprise and Admiration. On écoute.
Émerveillement, surprise et admiration sont des mots qui, bien qu'on les confonde souvent, renvoient dans notre langue à des sentiments qui, de fait, sont en alliance, mais qui, à certains égards, sont également différents et sont distincts les uns des autres. Ce qui est nouveau et singulier suscite ce sentiment qui, à strictement parler, se nomme émerveillement. Ce qui est inattendu suscite de la surprise, et ce qui est grand ou beau de l'admiration. Nous nous émerveillons devant des objets rares et extraordinaires, devant les phénomènes naturels les plus rares, les météores, les comètes, les éclipses, devant des plantes et des animaux singuliers, et en bref, devant tout ce que nous avons auparavant soit peu, soit jamais rencontré. Et nous continuons à nous émerveiller, même si nous sommes prévenus de ce que nous sommes supposés voir. Nous admirons la beauté d'une plaine ou le gigantisme d'une montagne, quoique nous les ayons déjà vus tous deux auparavant et quoique rien d'autre non plus ne nous apparaisse d'eux que ce que nous nous étions attendus à voir de façon certaine. En revanche, on est surpris par ces choses que nous avons souvent vues, mais que nous ne nous attendions pas le moins du monde à rencontrer à l'endroit où nous les trouvons. On est surpris en voyant soudain apparaître une amie que nous avons vue un millier de fois, mais que nous n'imaginons pas voir à ce moment-là.
Alors, si je comprends bien, d'après Adam Smith, l'émerveillement, c'est face à ce qui est singulier et rare, l'admiration face à ce qui est beau, et la surprise face à ce qui est vraiment inattendu. Vous êtes d'accord? Jusqu'à quel point? Nathalie Depraz, c'est à vous.
Oui, je suis évidemment d'accord, c'est ce que dit Adam Smith. Je voudrais juste dire que merci pour votre lecture, que j'ai trouvée vraiment superbe.
Vous avez vu ce joli tapis sonore que Riyad Kera nous a mis sous le
magnifique, texte. Vraiment, voilà. C'était très beau, j'étais très émue. D'autant plus émue que ce texte d'Adam Smith, je l'ai vraiment découvert. Pour moi, ça a été un bijou quand j'ai découvert ce texte qui, dans des leçons d'astronomie, donc un ouvrage complètement inconnu d'Adam Smith. Quand j'ai trouvé cette tripartition, oui. J'ai trouvé ça incroyable. C'était la première fois que je rencontrais quelque chose d'aussi clair, oui. Par rapport à ce que je cherchais intuitivement sans savoir comment le formuler. C'est vrai que vous avez raison. Émerveillement est lié selon Smith, hein, si on reprend sa tripartition, c'est ce qui est nouveau et rare. L'admiration, c'est devant ce qui est beau, la beauté.
C'est pas moi qui ai raison, c'est juste Smith. Hein,
oui, mais vous le reformulez, c'est tout à fait ça. Et il dit, la surprise, c'est ce qui est inattendu. Alors, c'est vrai, mais c'est un peu plus complexe encore chez Adam Smith, parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, en fait, pour moi, la surprise est relationnelle et contextuelle. C'est-à-dire qu'en fait, Adam Smith dit bien... on est surpris en voyant soudain apparaître une amie que nous avons vue un millier de fois, donc quelqu'un de très familier, donc c'est ni rare ni, ni nouveau, mais on n'imaginait pas la voir à ce moment-là et à cet endroit-là. Donc en fait, ce qu'il dit très bien dans, un peu plus loin, c'est qu'en fait la surprise s'est fondée sur une sorte d'interface, de déphasage entre mes attentes et... ce que je vois réellement. Donc, bien sûr, c'est l'inattendu, si on dit que l'inattendu, c'est ce qui est l'objet de la surprise. Mais en réalité, c'est une structure, c'est une dynamique. C'est un décalage entre quelque chose qui était familier et que je connais par cœur, et ou une réalité ou une personne que je connais très bien, et que je vois à un endroit improbable. Je rencontre mon oncle aux États-Unis alors qu'il vit dans un petit village des Alpes, et ça, ça crée de la surprise.
Et c'est très... cinématographique, d'ailleurs, c'est le dernier film de Woody Allen qui exploite ça, j'ai oublié son titre, mais enfin, ce sont des gens qui se rencontraient, qui avaient partagé la même école, à New York, au lycée français apparemment, et puis qui se retrouvent avenue Montaigne, auprès des champs, et tout commence comme ça. Ils se connaissent très bien, ils se rencontrent là. Donc ça, j'entends. Mais pourquoi ? À un moment donné, lâchez-vous cette histoire de l'inattendu. C'est-à-dire, vous dites, non, la surprise, c'est pas vraiment l'inattendu. C'est ce que vous dites en conclusion. Oui, mais pourquoi ? Alors que vous venez justement de la définir comme Smith, de cette façon.
Parce que justement, l'idée, c'est de se décentrer d'une conception de la surprise qui serait reliée à l'objet de la surprise. Donc l'inattendu, ce qui est inattendu, c'est l'objet. Donc ce serait mon oncle. Aux États-Unis. Alors qu'en fait, pour moi, la surprise, c'est une dynamique. Donc, c'est quelque chose qui inclut justement ces horizons d'attente, le moment d'interface et de déphasage et les conséquences qui s'en suivent. Donc, si on réduit la surprise à l'inattendu, on réduit la surprise à son effet, ce qu'on appelle son effet, son résultat, son objet.
Ah oui, mais vous insistez aussi sur l'effet. Vous dites que vivre vraiment la surprise, c'est le vivre aussi avec son corps. Et là, vous invoquez un texte de Ricoeur, de Paul Ricoeur, qui accentue l'importance du corps. C'est le corps qui empêche, je cite Ricoeur dans Philosophie de la volonté en 1950, mais c'est vous qui le citez, je ne fais que lire, le corps empêche que la rencontre avec le nouveau reste une touche fugitive, c'est-à-dire qu'on se fait traverser vraiment, y compris corporellement, par la surprise. Donc c'est quand même l'inattendu qui rentre en nous. C'est une belle chose, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. On pourrait dire l'inattendu, c'est une des composantes de la surprise, mais ce serait réducteur de l'identifier uniquement à son effet, à son résultat, à son objet.
Voulez aller au-delà de cette question. Elle vous intéresse, la question de l'effet, je crois, mais vous voulez aller au-delà.
Mais c'est une des phases, pour moi, de la surprise. Oui. L'autre phase étant la structure d'attente et la troisième phase étant le moment même de la brèche. De la rupture ou de ce déphasage. Et en fait, pour moi, c'est intéressant de penser la surprise comme une dynamique, donc comme quelque chose qui est beaucoup plus ample que simplement son objet. Parce que si on pense la surprise comme son objet, on pense à un sujet qui est passif et qui est un être surpris. Et c'est très réducteur.
Bon, alors tout ça est philosophiquement passionnant, mais il y a un petit problème. C'est que cinématographiquement, esthétiquement, la pure surprise, à part le cas que je viens de donner de Woody Allen, mais c'est un début. C'est pas très alléchant, quoi. Il y a une chose qui est beaucoup plus cinématographique, c'est le suspense. Alors je vous propose d'écouter, on va le laisser sur la longueur, c'est tellement beau d'entendre Alfred Hitchcock parler. Ça a été diffusé sur France Culture en 1999, ce propos qu'il tient, il est dans un entretien avec François Truffaut. Écoutez Alfred Hitchcock, le grand spécialiste du suspense, vous parler du suspense.
While we're at this point, I should elaborate.
Je crois que je devrais développer un peu.
On one of the most important.
Sur une des
fonctions
les plus importantes.
Of the creation of suspense.
Dans le domaine de la création du suspense.
You know.
Vous savez.
There's always been this dispute between suspense and surprise.
Entre le suspense et la surprise.
That if you have a situation.
Si vous avez une situation.
And this is what I'm saying now is not new. I've said this many times before.
Ce n'est pas nouveau, je l'ai dit souvent avant.
There might be a bomb under this table.
Il peut y avoir une bombe sous cette table.
And we are having a very innocuous conversation.
Et nous avons une conversation très anodine.
Nothing, you know.
Rien de spécial.
But suddenly, boom, this thing goes up.
Mais tout d'un coup,
the audience
boom,
are shocked.
Explosion. L'audience est choquée.
We're all injured or something.
Nous sommes tous blessés ou quelque chose.
It has been very, very dull. The scene has been very dull.
La scène est très et manque totalement d'intérêt.
Up until the time jusqu'au that the bomb goes off.
Où la bombe explose.
People are shocked.
Et à ce moment-là, les gens sont choqués.
The shock will last 15 seconds.
Le choc durera 15 secondes.
Off,
et ensuite,
minute,
ça s'atténuera.
2 minutes and that's
minute,
that.
2 minutes et puis c'est fini.
Now we go to the other version.
Maintenant, nous allons à l'autre version.
The bomb is under the table, and the audience are shown that it is there.
Et l'audience sait que la bombe est là.
At the beginning.
Au début.
They have been told, probably by the anarchist,
ils
that it's time to go off.
Probablement
at one
par l'anarchiste que probablement ça va que ça va détonner à une heure.
There's the clock.
Il y a la montre.
And it's quarter to one.
Il est une heure moins le quart.
The conversation, which was so dull,
la conversation now becomes qui était tellement anodine, maintenant devient très intéressante.
Because the audience are saying,
parce que l'audience se dit,
don't talk such frivolous things.
Ne vous racontez pas des choses tellement banales.
There's a bomb under the
table. Il y a une bombe en dessous de la table.
And look, it's going off at
et regardez, ça va partir à une heure.
This we play. Instead of 15 seconds of surprise,
we
can have 15 minutes of suspense.
15 minutes de suspense.
Avec philosophie, Géraldine Nulman.
Et après ces propos d'Hitchcock, qui, vous l'avez entendu, fabrique un scénario carrément en direct, en imaginant une bombe sous la table posée par des anarchistes avec une horloge qui montre l'heure, etc. Il est quand même génial. Hein. Eh bien, vous avez entendu aussi, à la suite, la bande originale du film Psycho, Psychose en français, ce film d'Hitchcock de 1960. Laurent de Sutter, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a quand même des gens, vous voyez, comme Hitchcock, qui ont fait de la surprise, du suspense, ou plus de l'habillage de la surprise, un enjeu esthétique de toute une vie. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez un peu envie, semble-t-il, de nous faire rompre avec cette histoire d'horizon d'attente, avec cette structure psychique qui est en réalité centrale dans le cinéma d'Hitchcock?
Est-ce qu'elle est si centrale que ça? Je me pose la question quand même, parce que moi, je me demande si le suspense, comme fabrication, comme construction, comme élaboration, n'appartient pas à un monde qui est un monde tout à fait différent de celui de la relation qui pourrait exister entre attente et surprise. En réalité, du point de vue de la surprise, du point de vue de ce qui fait événement, le premier scénario d'Hitchcock, celui de la bombe qui explose, est quelque part beaucoup plus réaliste, hein, parce que c'est de cela dont il est question. Au fond, là, il y a toujours une bombe qui peut exploser quelque part, en ce compris dans ce studio.
Et il ne faudrait pas l'attendre. Vous dites-vous dans la vie, il ne faut pas l'attendre, il ne faut pas y penser.
On n'en a pas besoin, parce que la vie elle-même, à chacun de ses instants, d'une certaine manière, est la surprise de sa propre continuation. Le génie d'Hitchcock, c'est d'avoir fabriqué d'avoir plaqué d'une certaine manière du mécanique sur du vivant, mais de ne pas en avoir fait une source de comique, mais d'avoir fait une source
d'angoisse
et d'avoir fait ça avec un génie indépassable.
Vous arrivez, vous, à ne jamais être Hitchcockien, à ne jamais vous dire tiens, le pire est possible, dans deux minutes ça pourrait nous tomber dessus.
Bien sûr,
parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça, donc je voudrais savoir s'il y a des êtres qui arrivent à ne jamais penser
qu'un
événement terrible. De quoi ? Chez moi, aucune jouissance, c'est que de l'angoisse.
C'est
et chez
vous ? Ah, moi, au contraire, ça m'amuse énormément. Ça m'amuse énormément. La possibilité permanente de la catastrophe est quelque chose que je trouve parfaitement réjouissant, en réalité. Simplement, c'est une possibilité que je n'attends certainement pas. Et c'est une possibilité qui, le jour où elle se matérialisera, là, elle me prendra vraiment par surprise et je tirerai une sacrée gueule. Mais je vous rejoins.
Bien sûr, c'est conjuratoire, l'angoisse qui anticipe. Mais quand même, c'est une structure suffisamment puissante dans l'être humain pour donner le là à tout un cinéma, à tout un monde artistique qui est celui d'Hitchcock. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Nathalie Deprat ?
Ben moi, je trouve ce passage de Hitchcock absolument magnifique, dans la mesure où cet art du suspense, justement, pour moi, c'est l'art de la surprise même, en réalité.
Donc c'est pas distinct, suspense.
Non, justement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une dynamique et que ce serait réducteur de penser la surprise uniquement comme un choc, parce que là, on serait dans quelque chose d'abstrait, de complètement isolé de tout le reste,
oui,
du contexte.
C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt.
Voilà,
une bombe qui explose sans qu'on l'ait attendu, ça n'a aucun intérêt.
C'est-à-dire, je pense que le choc lui-même, que vous dites, c'est réaliste. C'est vrai, ce moment-là, il est réaliste. Moi, ça me parle assez aussi, parce qu'en fait, ça renvoie à ce que j'appelle un petit modèle ordinaire, de la surprise ordinaire. C'est-à-dire, je suis absorbée dans une lecture, plus rien n'existe, et puis, à un moment donné, j'entends une sirène, et là, je sursaute. Donc, à ce moment-là, on est dans la surprise comme sursaut, comme choc, comme quelque chose de très... C'est vrai que c'est notre quotidien. La plupart du temps, c'est ce qui se passe.
Et vous attendez-vous des choses dans la vie ou bien vous avez réussi à appliquer une philosophie de la disponibilité sans attente ?
Alors, pour moi, c'est une forme d'attente. C'est-à-dire, c'est une forme d'attente ouverte. C'est-à-dire, je ne distinguerai pas complètement l'attente et la disponibilité, mais j'aurais tendance à réformer l'attente en disponibilité.
Oui.
Et à ce moment-là, le suspense... Tout ce moment-là d'attente, alors qui n'est pas la même pour les spectateurs et pour les gens qui sont en train de discuter, parce que les spectateurs sont d'une certaine manière impliqués dans le scénario du suspense, alors que les gens qui sont en train de discuter n'en ont pas connaissance. Effectivement, c'est fabriqué par Hitchcock. C'est comme si on avait deux postures, comme si on était dissociés d'une certaine manière. On est le spectateur, on est impliqué, on est au courant. On est dans une attente construite, et puis, donc ça c'est la disponibilité, parce qu'en fait on est ouvert à ce qui va se produire, mm-hmm. Alors que les personnes qui parlent entre elles et qui ne sont pas au courant sont dans le modèle ordinaire de la surprise, capture, sursaut. Donc c'est deux ententes différentes, deux modèles différents de la surprise pour moi.
Nathalie Deprat, pourquoi dites-vous que la philosophie en général n'aime pas la surprise ?
Alors c'est... Plutôt que, je dirais que les philosophes ont tendance à avoir des, comme vous l'avez dit, des concepts qui sont un peu plus, des gros concepts, je dirais, comme l'étonnement ou comme l'admiration ou l'événement.
C'est pas pareil l'événement. Il y a quand même une disponibilité là au nouveau.
Ça dépend
grand.
Comment c'est pensé, mais l'événement ça peut être une occurrence, donc ça peut être juste quelque chose qui arrive brutalement.
Enfin, et c'est pas assez pour vous.
Ben, il me semble que ça oblitère, ça supprime des composantes essentielles de cette dynamique de la surprise qui sont corporelles, parce qu'en réalité dans l'étonnement, l'admiration ou l'événement, la dimension organique corporelle n'est pas déterminante, et relationnelle, c'est-à-dire en fait contextuelle. Le fait qu'on n'est jamais surpris tout seul.
Donc c'est la question du corps qui...
Du corps et d'autrui.
Qui serait en quelque sorte refoulé par les philosophes.
Le corps et
autrui. Il y en a une autre aussi. Bon, là, c'est un point qui me tient à cœur, je reconnais. C'est la politique. C'est-à-dire que la politique est faite de surprises. Et c'est vrai que les bons philosophes du politique, peut-être les meilleurs, ont toujours dit « ça suffit, la philosophie n'arrive pas à accepter... » l'événement pour le coup pur, c'est-à-dire le nouveau, le commencement. Bon, Arendt l'a beaucoup dit, mais aussi Castoriadis, qui suggérait que les philosophes sont quand même très maladroits avec la politique. Ils aiment la philosophie de l'histoire, les grandes logiques continues. Ils ont du mal à penser l'arrachement, le début, le c'est plus comme avant. Ils ont du mal. Vous êtes d'accord?
Les discontinuités, les ruptures, les révolutions. Donc la dimension effectivement de brèche complète, enfin de radicalité, des ruptures. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on pense, en philosophie, on a envie de penser la médiation, le continu. On est très hégélien. Enfin, on est très, on cherche à penser des logiques en fait qui peuvent être articulables. Quand on peut plus articuler, c'est vrai quand on est philosophe et qu'on peut plus articuler, c'est quand même très gênant. Enfin...
Alors décevoir les philosophes qui aiment le continu. Ça, c'est un plaisir, peut-être, pour vous,
vous avez tout à fait
Laurent
raison.
De Sutter.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que n'étant pas philosophe moi-même, j'ai évidemment une relation qui est relativement distanciée à cette discipline. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de voir que la philosophie, quand elle naît, elle naît véritablement comme une pensée obsédée par l'idée du nomos, obsédée par l'idée de la loi, par l'idée de l'ordre, par l'idée, en effet, de mode de stabilisation du savoir, de mode de stabilisation de l'art, de mode de stabilisation de la vie humaine, de mode de stabilisation de la vie publique, de la vie sociale. Et c'est vrai que tout ce qui parvient à se soustraire à ça, ce qui relève plutôt du côté du cas, tendance à m'intéresser. Oui.
Du côté du ?
Du cas.
Du cas. Du cas nouveau, inédit.
Le cas qui vient de ce qui s'oppose quelque part toujours à la loi, en obligeant la loi à se réviser elle-même.
Entendez Cilla Black, Surprise, Surprise, une chanson de 1985. Je ne sais pas moi si vous le saviez, je l'ai appris, mais Cilla Black aussi a connu une grande surprise. Son vrai nom, c'est Priscilla White, mais un journaliste tête en l'air, elle qui était proche des Beatles, a fait un papier sur elle, il s'appelait Bill Harry, trouvait plus son nom, alors il l'a appelée Cilla Black. Et elle a trouvé ça super, et donc elle a gardé ce nom. Merci beaucoup à tous les deux, Nathalie Deprat et Laurent de Sutter, pour vos réflexions sur la surprise et la déception. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle de centre et de périphérie. On l'écoute, voici le pourquoi du comment.
Pourquoi critique-t-on l'anthropocentrisme ? Le mot centrisme désigne en politique quelque chose d'apparemment simple, une position qui veut se situer non pas seulement dans une sorte de milieu vague entre deux directions opposées, mais au centre de deux extrêmes, et cela comporte aussi des risques. Mais le suffixe, le mot centrisme employé comme suffixe avec un autre mot qui le précède, est en tout cas en philosophie quelque chose de plus négatif. C'est une erreur. C'est le fait de se centrer d'une manière arbitraire et au fond partielle et partiale sur un aspect de l'être et de voir tout le reste sous ce prisme, au risque évidemment de tout déformer. Et la notion la plus classiquement utilisée de manière critique, péjorative, en ce sens, en philosophie, mais aussi aujourd'hui en politique, car c'est un débat qui concerne l'écologie, qui concerne la représentation du monde vivant, c'est la notion d'anthropocentrisme. Qu'est-ce que c'est que l'anthropocentrisme ? Eh bien, c'est très simple, cela consiste, pour les êtres humains, à placer l'espèce humaine et les façons humaines de voir le monde au centre du monde, d'une manière au fond réductrice et peut-être violente pour le reste. On appelle X-centrisme le fait pour un X de se considérer comme la seule façon de voir le monde, comme le centre du monde au détriment des autres parties du monde, des autres participants, des autres habitants du monde. Et l'anthropocentrisme est beaucoup critiqué aujourd'hui sous ces deux angles, disons sous l'angle nouveau de considérer l'espèce humaine comme absolument supérieure et exclusive aux autres ou des autres. Et cet autre anthropocentrisme alors se relie à ce que certains appellent le spécisme, une sorte de privilège indu, selon elles et eux, accordé aux êtres humains sur tous les autres vivants. Et cela se distingue de l'anthropocentrisme classique en philosophie. En philosophie, on appelle anthropocentrisme, par exemple chez Spinoza, l'idée de projeter sur l'être les façons humaines de voir. Par exemple, dit Spinoza, les êtres humains construisent les objets de manière rationnelle, avec une finalité technique, et ils croient que l'univers a été conçu de cette façon-là. Ou bien les êtres humains, disons, se représentent comme libres, c'est toujours la thèse de Spinoza. Eh bien, l'anthropocentrisme consiste à considérer que la liberté existe dans le monde, et c'est la source, selon Spinoza, d'une erreur et d'un malheur. À cet anthropocentrisme comme illusion anthropologique, le fait de croire que notre façon de voir vale pour l'ensemble des choses, s'ajoute maintenant donc l'anthropocentrisme comme privilège indu accordé à l'espèce humaine sur tous les autres vivants, comme centre du monde dominant toute la périphérie de l'univers. Mais d'une certaine manière, ces dérives de l'anthropocentrisme ne doivent pas faire oublier qu'il y a peut-être une forme de légitimité, d'ouverture à partir de l'expérience des humains. Comment ferions-nous autrement pour rejoindre tout le reste ? L'anthropocentrisme est une erreur, sauf si depuis ce centre, nous rayonnons sur l'ensemble du cercle, et même au-delà d'un cercle délimité, l'ensemble de la périphérie, et si l'ensemble du monde, et si nous rencontrons les autres vivants. Partir de l'expérience humaine n'est pas un scandale. Ce qui est dangereux, c'est d'imposer certains schémas, eux-mêmes réducteurs pour nous eux-mêmes comme vivants, une façon réductrice de se connaître soi-même comme être humain et comme vivant humain. Partir de là, c'est une domination abusive, mais partir de l'expérience humaine pour rejoindre le reste du monde, comment ferait-on autrement ? Alors il y a une sorte d'anthropocentrisme ouvert, ouvert sur un univers multipolaire, mais qui accepte aussi le pôle ou les pôles de l'humanité avec ses dangers comme un point de référence.
Merci Frédéric Worms. Je précise que les références des travaux de nos invités figurent, comme toujours, sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et Carla Michel. Et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie que je remercie aussi, Chaï Magiboire, Axel Dubois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité. Merci.